J'ai eu beau lire Ho Chi Minh dans le texte, traduire Marx en hit classique, me livrer à une analyse stylistique des épanadiploses du Petit Livre rouge, réaliser une transcription oulipienne de la pensée de Lénine, j'ai eu beau offrir le communisme en pâture à ma réflexion, ou inversement, je n'ai pas pu dépasser les conclusions de mes 5 ans. Je venais à peine de poser mon pied en terre rouge, je n'avais pas même quitté l'aéroport, et déjà, j'avais compris. J'avais trouvé le seul vecteur qui permît de résumer la situation en une phrase. Cette assertion est à la fois belle, simple, poétique et un peu décevante, comme toutes les grandes vérités. L'eau bout à 100 degrés. Beauté élémentaire de cette phrase, qui laisse un rien sur sa fin. Mais la vraie beauté doit laisser sur sa fin. Elle doit laisser à l'âme une part de son désir. En cela, ma phrase était belle. La voici. Un pays communiste est un pays où il y a des ventilateurs. Cette phrase a une structure si lumineuse qu'elle pourrait servir d'exemple dans un traité de logique viennois. Mais au-delà de ses grâces stylistiques, cette assertion a ceci de frappant qu'elle est vraie. À l'aéroport de Pékin, quand je me suis retrouvée nez à nez avec un bouquet de ventilateurs, cette vérité m'a sauté au visage avec l'inexplicable évidence des révélations. Ces fleurs étranges, à corolles pivotantes enfermées dans un panier à salade, ne pouvaient pas ne pas être l'indice d'un milieu insolite. Au Japon, il y avait l'air conditionné. Je ne me souvenais pas y avoir vu ces végétaux plastifiés. Dans les pays communistes, il pouvait arriver qu'il y ait l'air conditionné, mais il ne fonctionnait pas. Il fallait alors un ventilateur. Par la suite, j'ai vécu dans d'autres pays communistes, la Birmanie et le Laos, qui ont confirmé mes vues de 1972. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de ventilateurs dans les pays non communistes, mais ils y sont beaucoup plus rares. Et ce qui est plus subtil, ils y sont insignifiants. Le ventilateur est au communisme ce que l'épithète est à Homère. Homère n'est pas le seul écrivain au monde à utiliser des épithètes, mais c'est sous sa plume que les épithètes prennent tout leur sens. En 1985, dans son film « Papa est en voyage d'affaires », Kusturica a tourné une scène d'interrogatoire communiste qui mettait en présence 3 personnes. L'interrogateur, l'interrogé et un ventilateur. Au cours de l'interminable séance de questions-réponses, la tête pivotante de l'engin s'arrête. À un rythme inexorable, tantôt sur l'interrogateur, tantôt sur l'interrogé. Elle se fige sur chaque personnage avant de balayer le rayon jusqu'à l'autre. Ce mouvement absurde et horripilant porte le malaise de la scène à son comble. Pendant tout l'interrogatoire, rien ne bouge, ni les deux hommes, ni la caméra. Il n'y a que cette oscillation du ventilateur. Sans lui, la scène n'atteindrait jamais ce degré de crispation. Il joue le rôle de cœur antique, en beaucoup plus insupportable, car il n'émet aucun jugement. Il ne pense à rien. Il se contente d'être là pour faire résonner les choses et exécuter avec une exactitude infaillible son boulot de ventilateur, efficace et sans opinion, le cœur dont rêvent les régimes totalitaires. Je doute que même l'aval d'un célèbre cinéaste yougoslave puisse suffire à convaincre de la pertinence de mes réflexions sur les ventilateurs. Cela n'a aucune importance. Y a-t-il encore des esprits assez naïfs pour s'imaginer que les théories servent à être crues? Les théories servent à irriter les philistins, à séduire les esthètes et à faire rire les autres. La propre des vérités confondantes est d'échapper à l'analyse. Vialat a écrit cette phrase merveilleuse. Le mois de juillet est un mois très mensuel. A-t-on jamais rien dit de plus vrai et de plus confondant sur le mois de juillet? Aujourd'hui, je ne vis plus à Pékin et je n'ai plus de cheval. J'ai remplacé Pékin par du papier blanc et le cheval par de l'encre. Mon héroïsme est devenu souterrain. J'ai toujours su que l'âge adulte ne comptait pas. Dès la puberté, l'existence n'est plus qu'un épilogue. À Pékin, ma vie était d'une importance capitale. L'humanité avait besoin de moi. D'ailleurs, j'étais éclaireur, et c'était la guerre. Notre armée avait trouvé une nouvelle forme d'agression contre l'ennemi. Tous les matins, les autorités chinoises venaient livrer des yaourts nature aux habitants du ghetto. Ils déposaient devant les portes de chaque appartement une petite caisse de yaourt individuelle contenue dans des pots de verre et recouverts d'un insignifiant papier. Le laitage blanc était surmonté d'une épaisseur de présure jaunâtre. À l'aube, un commando de soldats masculins se rendait devant les portes des appartements est-allemands, soulevait les couvercles, buvait la présure et la remplaçait par une dose équivalente d'un liquide de même couleur fourni par leur organisme. Puis ils remettaient les couvercles, ni vu ni connu, et allaient se faire pendre ailleurs. Nous n'avons jamais su si nos victimes mangeaient leur yaourt. Tout porte à le croire, d'autant qu'aucune plante ne fut mentionnée. Ces laitages chinois étaient d'une acidité telle que certains goûts bizarres pouvaient très bien passer sans être remarqués. L'ignominie de cette manœuvre nous faisait éructer d'extase. Nous nous disions que nous étions immondes. C'était grandiose. Les enfants d'Allemagne de l'Est étaient solides, courageux et forts. Aussi se contentaient-ils de nous rouer de coups. Ce genre d'hostilité paraissait dérisoire comparé à nos crimes. Nous étions des salauds d'envergure, nous. La somme des muscles de notre armée était ridicule en regard de celle de l'armée ennemie, pourtant moins nombreuse, mais nous étions beaucoup plus méchants. Quand l'un d'entre nous tombait entre les mains des Allemands de l'Est, il en sortait une heure plus tard couvert de bosses et de bleus. Quand l'inverse se produisait, l'ennemi en avait pour son argent. D'abord, notre traitement prenait beaucoup plus de temps. Le petit Allemand avait droit à au moins un après-midi de divertissement, parfois sensiblement plus. Nous commencions par nous livrer, en présence de la victime, à une orgie intellectuelle concernant son sort. Nous parlions en français, et le teuton n'y pigeait rien. Il n'en avait que plus d'appréhension. D'autant que nos suggestions étaient proférées avec tant de jubilation et d'exaltation cruelle que nos visages et nos voix constituaient d'excellents sous-titres. La litote était en dessous de notre dignité. « On lui coupera le... et les... » servait de classique exorde à notre empilage verbal. Il n'y avait aucune fille parmi les Allemands de l'Est. C'est un mystère dont je n'ai jamais eu la clé. Peut-être les parents les laissaient-ils au pays, entre les mains de quelque entraîneur de natation ou de lancement de poids. Avec le couteau de cuisine de M. Chang. Non, avec le rasoir de M. Ziegler. Et on les lui fera bouffer, tranchait un pragmatique qui trouvait secondaire ses compléments circonstanciels. Avec son et son, comme assaisonnement. Très lentement, reprenait un amateur d'adverbes. Oui, il devra bien mâcher, disait un esprit glossateur. Et après, on le fera vomir, proférait un blasphémateur. Surtout pas, il serait trop content. Il faut qu'il garde ça dans son ventre, se récriait un autre qui avait le sens du sacré. Même qu'on lui bouchera le... pour que ça ne ressorte jamais, surenchérissait un confrère qui voyait loin. Oui, fit un disciple de saint Matthieu. Ça marchera pas, commenta un philistin que personne n'écoutait. Avec le ciment des ouvriers, et on lui bouchera la bouche aussi, pour qu'il n'appelle pas à l'aide. On lui bouchera tout, exulta un mystique. Le ciment chinois, c'est de la merde, observa un expert. Tant mieux, comme ça il sera bouché avec de la merde, reprit le mystique en transe. Mais il va mourir, balbutia un pleutre qui se prenait pour la convention de Genève. Non, fit le disciple de saint Matthieu. Nous l'en empêcherons, ce serait trop facile. Il faut qu'il souffre jusqu'au bout. Quel bout ? S'enquit la convention de Genève. La faim, quoi, quand on le laissera filer chez sa maman en pleurant. La tête de la mère quand elle verra comment on aura arrangé son sale môme. Ça lui apprendra à avoir des enfants allemands. Les seuls bons Allemands sont les Allemands bouchés au ciment chinois. Cet aphorisme, juste assez cryptique pour susciter l'enthousiasme, fit hurler l'assemblée. D'accord, mais avant ça, il faudra aussi lui arracher les cheveux, les sourcils et les cils, et les ongles. On lui arrachera tout, clama le mystique. Et on mélangera ça au ciment avant de le boucher pour que ce soit plus solide. Ça lui fera un souvenir. Ces exercices de style avaient quelque chose de pathétique, car très vite, nous nous heurtions aux limites du langage, d'autant que nous capturions souvent une victime. Il fallait des trésors d'imagination pour renouveler les surenchères sans les affadir. Le corps étant moins vaste que le vocabulaire, nous explorions ce dernier avec un acharnement dont les lexicographes devraient prendre de la graine. « Eh, ça s'appelle aussi des testicules ?»« Ou gonades ?»« Gonades comme une grenade ?»« On lui découpira les gonades !»« On en fera de la gonadine !» J'étais celle qui parlait le moins pendant ces tournois où les phrases couraient de l'un à l'autre comme le furet de la chanson. J'écoutais, subjuguée par tant d'éloquence et par une telle audace dans le mal. Les orateurs me donnaient l'impression de jongler à plusieurs avec une virtuosité qui durerait jusqu'à ce qu'un maladroit manque une balle. Aussi préférais-je rester hors jeu et guetter les multiples circulations de la parole. Moi, je ne parvenais à parler que seule, quand je pouvais jouer à l'otarie avec ma phrase, la hissant au bout de mon nez comme un ballon rouge. Le pauvre petit Allemand avait eu le temps de mouiller sa culotte lorsque notre armée passait enfin de la théorie à la pratique. Il avait pu entendre tous les rires menaçants et les mitraillages verbaux. Souvent, il pleurait de peur quand les bourreaux s'approchaient de lui, pour notre plus grande joie. « Mauviette ! Gonade molle !» Hélas, tragédie du langage oblige, les choses restaient en dessous des mots, et nous infligions des supplices très peu diversifiés. En général, ça se limitait à une immersion dans l'arme secrète. L'arme secrète comportait entre autres toutes nos urines, à l'exclusion de celles qui étaient réservées au yaourt allemand. Nous mettions un zèle exemplaire à ne pas nous départir de ce précieux liquide ailleurs que dans la grande cuve commune. Cette dernière était installée au sommet de l'escalier de secours du bâtiment le plus élevé du ghetto et gardée par les plus farouches d'entre nous. Longtemps, les adultes ou autres spectateurs se sont demandé pourquoi l'on voyait si souvent les enfants courir vers cet escalier de secours, l'air oppressé. À ces urines de moins en moins fraîches était incorporée une belle proportion d'encre de Chine, encre doublement de Chine. Formule chimique assez simple, en somme, qui donnait lieu à un élixir verdâtre aux fragrances d'ammoniac. L'Allemand était empoigné par les jambes et les bras, et était immergé à fond dans la cuve. Ensuite, nous nous débarrassions de l'arme secrète, estimant que la victime en avait corrompu la monstrueuse pureté. Et nous recommencions à conserver nos urines jusqu'au prisonnier suivant. Si j'avais dû lire Wittgenstein à l'époque, je l'eusse trouvé tout à fait à côté de la question. Cette proposition abstruse pour expliquer le monde, alors qu'une seule et si simple, eût rendu compte du système entier. Et je n'avais même pas dû réfléchir pour la trouver. Et je n'avais même pas dû la formuler pour la vivre. C'était une certitude acquise. Chaque matin, elle naissait à moi. L'univers existe pour que j'existe. Mes parents, le communisme, les robes en coton, les contes des mille et une nuits, les yaourts nature, le corps diplomatique, les ennemis, l'odeur de la cuisson des briques, l'angle droit, les patins à glace, Chuen Lai, l'orthographe et le boulevard de la laideur habitable. Aucune de ces énumérations n'était superflue, puisque toutes ces choses existaient en vue de mon existence. Le monde entier aboutissait à moi. La Chine péchait par excès de modestie. Empire du milieu ? Il suffisait d'entendre cet énoncé pour en comprendre les limites. La Chine serait le milieu de la planète, à condition de rester bien sagement à sa place. Moi, je pouvais aller où je voulais. Le centre de gravité du monde me suivait à la trace. La noblesse, c'est aussi admettre ce qui va de soi. Il ne fallait pas se cacher que le monde s'était préparé à mon existence depuis des milliards d'années. La question de l'après-moi ne me préoccupait pas. Il faudrait sans doute quelques milliards d'années supplémentaires pour que les derniers exégètes aient fini de gloser mon cas. Mais cet aspect du problème avait si peu d'importance au regard de l'immédiateté vertigineuse de mes jours. Je laissais ces spéculations à mes glossateurs et aux glossateurs de mes glossateurs. Ainsi, Wittgenstein était hors sujet. Il avait commis une grave erreur. Il avait écrit. Autant abdiquer tout de suite. Aussi longtemps que les empereurs chinois n'écrivaient pas, la Chine était à l'apogée de son apogée. La décadence a commencé avec le premier écrit impérial. Je n'écrivais pas, moi. Quand on a des ventilateurs géants à impressionner, quand on a un cheval à saouler de galop, quand on a une armée à éclairer, quand on a un rang à tenir et un ennemi à humilier, on redresse la tête et on n'écrit pas.